Honoré de Balzac, Les secrets de la princesse de Cadignan. Après les désastres de la Révolution de Juillet, qui détruisit plusieurs fortunes aristocratiques soutenues par la cour, Madame la princesse de Cadignan eut l'habileté de mettre sur le compte des événements politiques la ruine complète due à ses prodigalités. Le prince avait quitté la France avec la famille royale en laissant la princesse à Paris, inviolable par le fait de son absence, car les dettes, à l'acquittement desquelles la vente des propriétés vendables ne pouvait suffire, ne pesaient que sur lui. Les revenus du majorat avaient été saisis. Enfin, les affaires de cette grande famille se trouvaient en aussi mauvais état que celles de la branche aînée des Bourbons. Cette femme, si célèbre sous son premier nom de duchesse de Maufrigneuse, prit alors sagement le parti de vivre dans une profonde retraite et voulut se faire oublier. Paris fut emporté par un courant d'événements si vertigineux que bientôt la duchesse de Maufrigneuse, enterrée dans la princesse de Cadignan, mutation du nom inconnu à la plupart des nouveaux acteurs de la société mise en scène par la Révolution de Juillet, devint comme une étrangère. En France, le titre de duc prime tous les autres, même celui de prince, quoique en thèse héraldique pure de tout sophisme, les titres ne signifient absolument rien, et qu'il y ait égalité parfaite entre les gentilshommes. Cette admirable égalité fut jadis soigneusement maintenue par la maison de France, et de nos jours elle l'est encore au moins nominalement, parce que, par le soin qu'ont les rois de donner de simples titres de comte à leurs enfants. Ce fut en vertu de ce système que François Ier écrasa la splendeur des titres que se donnait le pompeux Charles Quint en lui signant une réponse. François, seigneur de Vanves. Louis XI avait fait mieux encore en mariant sa fille à un gentilhomme sans titre, à Pierre de Beaujeu. Le système féodal fut si bien brisé par Louis XIV que le titre de duc devint dans sa monarchie le suprême honneur de l'aristocratie et le plus envié. Néanmoins, il est deux ou trois familles en France où la principauté, richement possessionnée autrefois, est mise au-dessus du duché. La maison de Cadignan, qui possède le titre de duc Maufrigneuse pour ses fils aînés, tandis que tous les autres se nomment simplement chevalier de Cadignan, est une de ces familles exceptionnelles. Comme autrefois deux princes de la maison de Rohan, les princes de Cadignan avaient droit à un trône chez eux. Ils pouvaient avoir des pages, des gentilshommes à leur service. Oui, cette explication est nécessaire autant pour les sortes de critiques de ceux qui ne savent rien que pour constater les grandes choses d'un monde qui, dit-on, s'en va et que tant de gens poussent sans le comprendre. Des Cadignans, porte d'or à 5 fusées de sable accolées et mises en face avec le mot « Mémini » pour devise, et la couronne fermée, sans tenant ni lambrequin. Aujourd'hui, la grande quantité d'étrangers qui affluent à Paris ont une ignorance presque générale de la science héraldique et qui commencent à mettre le titre de prince à la mode. Il y a de vrais princes que ceux qui sont possessionnés et auxquels appartient le titre d'altesse. Le dédain de la noblesse française pour le titre de prince et les raisons qu'avait Louis XIV de donner la suprématie au titre de duc ont empêché la France de réclamer l'altesse pour les quelques princes qui existent en France, ceux de Napoléon exceptés. Telle est la raison pour laquelle le prince de Cadignan se trouve dans une position inférieure, nominalement parlant, vis-à-vis des autres princes du continent. Les personnes de la société dite du Faubourg Saint-Germain protégeaient la princesse par une discrétion respectueuse due à son nom, lequel est de ceux qu'on honorera toujours, à ses malheurs que l'on ne discutait plus, et à sa beauté, la seule chose qui lui conservait de son opulence éteinte. Le monde dont elle fut l'ornement lui savait gré d'avoir pris en quelque sorte le voile en se cloîtrant chez elle. Ce bourgou était pour elle, plus que pour toute autre femme, un immense sacrifice. Les grandes choses sont toujours si vivement senties en France que la princesse regagna par sa retraite tout ce qu'elle avait pu perdre dans l'opinion publique au milieu de ses splendeurs. Elle ne voyait plus qu'une seule de ses anciennes amies, la marquise d'Espard. Encore n'en est-elle ni aux grandes réunions ni aux fêtes. La princesse et la marquise se visitaient dans la première matinée et comme en secret. Quand la princesse venait dîner chez son amie, la marquise fermait sa porte. Madame d'Espard fut admirable pour la princesse. Elle changea de loge aux Italiens et quitta les premières pour une baignoire du rez-de-chaussée, en sorte que Madame de Cadignan pouvait venir au théâtre sans être vue et partir incognito. Peu de femmes eussent été capables d'une délicatesse qui les eût privées du plaisir de traîner à leur suite une ancienne rivale tombée de sans dire la bienfaitrice. Dispensée ainsi de faire des toilettes ruineuses, la princesse allait en secret dans la voiture de la marquise, qu'elle n'eût pas acceptée publiquement. Personne n'a jamais su les raisons qu'eut Madame d'Espard pour se conduire ainsi avec la princesse de Cadignan. Mais sa conduite fut sublime et comporta pendant longtemps un monde de petites choses qui, vues une à une, semblent être des niaiseries et qui, vues en masse, atteignent au gigantesque. En 1832, trois années avaient jeté leur tas de neige sur les aventures de la duchesse de Maufrigneuse et l'avaient si bien blanchi qu'il fallait de grands efforts de mémoire pour se rappeler les circonstances graves de sa vie antérieure. De cette reine adorée par tant de courtisans et dont les légèretés pouvaient défrayer plusieurs romans, il restait une femme encore délicieusement belle, âgée de 36 ans, mais autorisée à ne s'en donner que 30, quoiqu'elle fût mère du duc Georges de Maufrigneuse, jeune homme de 19 ans, beau comme un Antinous, pauvre comme Job, qui devait avoir les plus grands succès et que sa mère voulait avant tout marier richement. Peut-être ce projet était-il le secret de l'intimité dans laquelle elle restait avec la marquise, dont le salon passe pour le premier de Paris, et où elle ne pouvait un jour choisir parmi les héritières une femme pour Georges. La princesse voyait encore 5 années entre le moment présent et l'époque du mariage de son fils. Des années désertes et solitaires, car pour faire réussir un bon mariage, sa conduite devait être marquée au coin de la sagesse. La princesse demeurait rue de Miromesnil, dans un petit hôtel à un rez-de-chaussée d'un prix modique. Elle y avait tiré parti des restes de sa magnificence. Son élégance de grande dame y respirait encore. Elle était entourée de belles choses qui annoncent une existence supérieure. On voyait à sa cheminée une magnifique miniature, le portrait de Charles X par Madame de Mirbel, sous lequel étaient gravés ces mots « donnés par le roi ». Et en pendant, le portrait de Madame, qui fut si particulièrement excellente pour elle. Sur une table brillait un album du plus haut prix, qu'aucune des bourgeoises qui trônent actuellement dans notre société industrielle et tracassière n'oserait étaler. Cette audace peignait admirablement la femme. L'album contenait des portraits parmi lesquels se trouvait une cent trentaine d'amis intimes que le monde avait appelés ses amants. Ce nombre était une calomnie, mais relativement à une dizaine, peut-être était-ce, disait la marquise d'Espard, de la belle et bonne médisance. Les portraits de Maxime de Trailles, de Marsay, de Rastignac, du marquis d'Esgrignon, du général Montriveau, des marquis de Ronquerolles et d'Ajuda Pinto, du prince Calaliolum, des jeunes ducs de Grandlieu, de Rhétoré, du beau Lucien de Rubempré, avaient d'ailleurs été traités avec une grande coquetterie de pinceau par les artistes les plus célèbres. Comme la princesse ne recevait pas plus de deux ou trois personnes de cette collection, elle nommait plaisamment ce livre le recueil de ses erreurs. L'infortune avait rendu cette femme une bonne mère. Pendant les 15 années de la Restauration, elle s'était trop amusée pour penser à son fils. Mais en se réfugiant dans l'obscurité, cet illustre égoïste songea que le sentiment maternel poussé à l'extrême deviendrait pour sa vie passée une absolution, confirmée par les gens sensibles qui pardonnent tout à une excellente mère. Elle aima d'autant mieux son fils qu'elle n'avait plus autre chose à aimer. Georges de Maufrigneuse est d'ailleurs un de ces enfants qui peuvent flatter toutes les vanités d'une mère. Aussi la princesse suffit-elle toutes sortes de sacrifices. Elle eut pour Georges une écurie et une remise au-dessus de laquelle il habitait un petit entresol sur la rue, composé de 3 pièces délicieusement meublées. Elle s'était imposé plusieurs privations pour lui conserver un cheval de selle, un cheval de cabriolet et un petit domestique. Elle n'avait plus que sa femme de chambre et, pour cuisinière, une de ses anciennes filles de cuisine. Le tigre du duc avait alors un service un peu rude. Toby, l'ancien tigre de feu Beaudenord, car telle fut la plaisanterie du beau monde sur cet élégant ruiné, ce jeune tigre qui, à 25 ans, était toujours censé d'en avoir que 14, devait suffire à passer les chevaux, à nettoyer le cabriolet ou le tilbury, suivre son maître, faire les appartements et se trouver à l'antichambre de la princesse pour annoncer, si par hasard elle avait à recevoir la visite de quelque personnage. Quand on songe à ce que fut, sous la Restauration, la belle duchesse de Maufrigneuse, une des reines de Paris, une reine éclatante dont la luxueuse existence en aurait remontré peut-être aux plus riches femmes à la mode de Londres, il y avait je ne sais quoi de touchant à la voir dans son humble coquille de la rue Miromesnil, à quelques pas de son immense hôtel qu'aucune fortune ne pouvait habiter et que le marteau des spéculateurs a démoli pour en faire une rue. La femme, à peine servie convenablement par 30 domestiques qui possédaient les plus beaux appartements de réception de Paris, les plus jolis petits appartements, qui y donna de si belles fêtes, vivait dans un appartement de 5 pièces. Une antichambre, une salle à manger, un salon, une chambre à coucher et un cabinet de toilette, avec 2 femmes pour tout domestique. « Oh, elle est admirable pour son fils !» disait cette fine commère de marquise d'Espard. « Et admirable, sans emphase, elle est heureuse !» On n'aurait jamais cru cette femme si légère, capable de résolutions suivies avec tant de persistance. Aussi notre bon archevêque, que l'a-t-il encouragé, se montre-t-il parfait pour elle? Et vient-il de décider la vieille comtesse de Saint-Cy à lui faire une visite? Avouons-le d'ailleurs, il faut être reine pour pour savoir abdiquer et descendre noblement d'une position élevée qui n'est jamais entièrement perdue. Ceux-là seuls, qui ont la conscience de n'être rien par eux-mêmes, manifestent des regrets en tombant ou murmurent, ou ils reviennent sur un passé qui ne reviendra jamais, en devinant bien qu'on ne parvient pas deux fois. Force est de se passer de fleurs rares au milieu desquelles elle avait l'habitude de vivre et qui rehaussaient si bien sa personne, car il était impossible de ne pas la comparer à une fleur. La princesse avait bien choisi son rez-de-chaussée. Elle y jouissait d'un joli petit jardin plein d'arbustes et dont le gazon toujours vert égayait sa paisible retraite. Elle pouvait avoir environ 12 000 livres de rente. Encore, ce revenu modique était-il composé d'un secours annuel donné par la vieille duchesse de Navarreins, tante paternelle du jeune duc, lequel devait être continué jusqu'au jour de son mariage, et d'un autre secours envoyé par la duchesse d'Uxelles du fond de sa terre, où elle économisait, comme savent économiser les vieilles duchesses, auprès desquelles Harpagon n'est qu'un écolier. Le prince vivait à l'étranger, constamment aux ordres de ses maîtres exilés, partageant leur mauvaise fortune et les servant avec un dévouement sans calcul, le plus intelligent peut-être de tous ceux qui les entourent, et la position du prince de Cardignan protégeait encore sa femme à Paris. Ce fut chez la princesse que le maréchal auquel nous devons la conquête de l'Afrique eut alors de la tentative de Madame en Vendée, des conférences avec les principaux chefs de l'opinion légitimiste, tant était grande l'obscurité de la princesse, tant sa détresse excitait peu la défiance du gouvernement actuel. En voyant venir la terrible faillite de l'amour, cet âge de 40 ans au-delà duquel il y a si peu de choses pour la femme, la princesse était jetée dans le royaume de la philosophie. Elle lisait, elle qui n'avait jamais, durant 16 ans, manifesté la plus grande horreur pour les choses graves. La littérature et la politique sont aujourd'hui ce qu'était autrefois la dévotion pour les femmes, le dernier asile de leurs prétentions. Dans les cercles élégants, on disait que Diane voulait écrire un livre. Depuis que de jolies, de belles femmes, la princesse était passée femme spirituelle, en attendant qu'elle passât tout à fait. Elle avait fait d'une réception chez elle un honneur suprême qui la distinguait prodigieusement la personne favorisée. À l'abri de ses occupations, elle put tromper l'un de ses premiers amants de Marsay, le plus influent personnage de la politique bourgeoise, intronisé en juillet 1830. Elle le reçut quelquefois le soir, tandis que le maréchal et plusieurs légitimistes s'entretenaient à voix basse dans sa chambre à coucher de la conquête du royaume qui ne pouvait se faire sans le concours des idées, le seul élément de succès que les conspirateurs oubliassent. Ce fut une jolie vengeance de jolie femme que de se jouer du premier ministre en le faisant servir de paravent à une conspiration contre son propre gouvernement. Cette aventure, digne des beaux jours de la Fronde, fut le texte de la plus spirituelle lettre du monde, où la princesse rendit compte des négociations à madame. Le duc de Maufrigneuse alla dans la Vendée et puis en revenir secrètement, sans s'être compromis, mais non sans avoir pris part au péril de madame, qui malheureusement le renvoya lorsque tout parut être perdu. Peut-être la vigilance passionnée de ce jeune homme eût-elle déjoué la trahison. Quelque grands qu'aient été les torts de la duchesse de Maufrigneuse aux yeux du monde bourgeois, la conduite de son fils les a certes effacés aux yeux du monde aristocratique. Il y eut de la noblesse et de la grandeur à risquer ainsi le fils unique et l'héritier d'une maison historique. Il est certaines personnes dites habiles qui réparent les fautes de la vie privée par les services de la vie politique. Et réciproquement, mais il n'y eut chez la princesse de Cardignan aucun calcul. Peut-être n'y en a-t-il pas davantage chez tous ceux qui se conduisent ainsi. Les événements sont pour la moitié dans ces contresens. Dans un des premiers beaux jours du mois de mai 1833, la marquise d'Espard et la princesse tournaient, on ne pouvait dire se promenaient, dans l'unique allée qui entourait le jason du jardin, vers 2 heures de l'après-midi, par un des derniers éclairs du soleil. Les rayons réfléchis par les murs faisaient une chaude atmosphère dans ce petit espace qu'embaumaient des fleurs, présents de la marquise. « Nous perdrons bientôt de Marsay, » disait Madame d'Espard à la princesse. Et avec lui s'en ira votre dernier espoir de fortune pour le duc de Maufrigneuse. Car, depuis que vous l'avez si bien joué, ce grand politique a repris de l'affection pour vous. Mon fils ne capitulera jamais avec la branche cadette, dit la princesse. Dût-il mourir de faim, dussé-je travailler pour lui? Mais Berthe de Cinq-Cygne ne l'est pas. « Oh, les enfants, » dit Madame d'Erpart, « n'ont pas les mêmes engagements que leur père. »« Oh, ne parlons point de ceci, » dit la princesse, « ce sera bien assez si je ne puis qu'apprivoiser la marquise de Cinq-Cygne de marier mon fils avec quelque fille du Fourgeron, comme a fait ce petit d'Estrigeon. »« L'avez-vous aimé ?» dit la marquise. « Non, » répondit gravement la princesse, « la naïveté de Lesprigot était une sorte de sottise départementale, de laquelle je me suis aperçu un peu trop tard, ou trop tôt, si vous voulez. Et de Marsay, oh, de Marsay a joué avec moi, comme avec une poupée. J'étais si jeune. Nous n'aimons jamais les hommes qui se font nos instituteurs. Ils froissent trop nos petites vanités. Et voici bientôt 3 années que je passe dans une solitude entière. Eh bien, ce calme n'a rien de pénible. À vous seul, j'oserais dire qu'ici je suis si sentie heureuse. J'étais blasée d'adoration, fatiguée sans plaisir, émue à la superficie, sans que l'émotion me traversât le cœur. J'ai trouvé tous les hommes que j'ai connus petits, mesquins, superficiels. Aucun d'eux ne m'a causé la plus légère surprise. Ils étaient sans innocence, sans grandeur, sans délicatesse. J'aurais voulu rencontrer quelqu'un qui m'eût imposé. « Mais seriez-vous donc comme moi, ma chère ?» demanda la marquise. « N'aurez-vous jamais rencontré l'amour en essayant d'aimer ?» « Non, jamais, » répondit la princesse en interrompant la marquise et lui posant la main sur le bras. Toutes deux allèrent s'asseoir sur un banc de bois rustique sous un massif de jasmin refleuri. Toutes deux avaient dit une de ces paroles solennelles pour des femmes arrivées à leur âge. « Comme vous, » reprit la princesse, « peut-être j'étais plus aimée que ne le sont les autres femmes. » Mais à travers tant d'aventures, je le sens, je n'ai pas connu le bonheur. J'ai fait bien des folies, mais elles avaient un but, et le but se reculait à mesure que j'avançais. Dans mon cœur vieilli, je sens une innocence qui n'a jamais été entamée. Oui, sous tant d'expérience, gît un premier amour qu'on pourrait abuser. De même que, malgré tant de fatigue et de flétrissure, je me sens jeune et belle. Nous pouvons aimer sans être heureuses. Nous pouvons être heureuses et ne pas aimer. Mais aimer et avoir du bonheur, Réunir ces deux immenses jouissances humaines est un prodige. Eh bien, ce prodige n'est pas accompli pour moi. Ah, ni pour moi, dit Madame d'Espard. Je suis poursuivi dans ma retraite par un regret affreux. Je me suis amusé, mais je n'ai pas aimé. Quel incroyable secret ! S'écria la marquise. Ah, ma chère, répondit la princesse, ces secrets, nous ne pouvons les confier qu'à nous-mêmes. Personne à Paris ne nous croirait. Et, reprit la marquise, si nous n'avions pas toutes deux passé 36 ans, nous ne ferions peut-être pas cet aveu. Oui, quand nous sommes jeunes, nous avons de bien stupides fatuités, dit la princesse. Nous ressemblons parfois à ces pauvres jeunes gens qui jouent avec un cure-dent pour faire croire qu'ils ont bien dîné. Enfin, nous voilà, répondit avec une grâce coquette Madame d'Espard, qui fit un charmant geste d'innocence instruite. Et nous sommes, il me semble, encore assez vivantes pour prendre une revanche. Comme vous m'avez dit l'autre jour que Béatrix était partie avec Conti, j'y ai pensé pendant toute la nuit, reprit la princesse après une pause. Il faut être bien heureuse pour sacrifier ainsi sa position, son avenir et renoncer à jamais au monde. « Mais oh, c'est une petite sotte !» dit gravement Madame d'Espard. « Mademoiselle des Touches a été enchantée d'être débarrassée de Conti. Béatrix n'a pas deviné combien cet abandon, fait par une femme supérieure qui n'a pas un seul instant défendu son prétendu bonheur, accusait la nullité de Conti. Alors elle sera donc malheureuse. Elle l'est déjà, reprit Madame d'Espard. À quoi bon quitter son mari ? C'est une femme, n'est-ce pas un aveu d'impuissance ? Ainsi, vous croyez que Madame de Rochefide n'a pas été déterminée par le désir de jouir en paix d'un véritable amour, de cet amour dont les jouissances sont pour nous deux encore un rêve ? Non ! Elle a singé Madame de Beauséant et Madame de Langeais, qui, soit dit entre nous, dans un siècle moins vulgaire que le nôtre, eussent été, comme vous d'ailleurs, des figures aussi grandes que celles de Lavallière, de Montespan, des Diane de Poitiers, des duchesses d'Étampes et de Châteauroux. Oh ! Moi le roi, ma chère ! Ah, je voudrais pouvoir évoquer ces femmes et leur demander si... Mais, dit la marquise en interrompant la princesse, il n'est pas nécessaire de faire parler les morts. Nous connaissons des femmes vivantes qui sont heureuses. Voici plus de 20 fois que j'entame une conversation intime sur ces sortes de choses avec la comtesse de Montcornet, qui depuis 15 ans est la femme du monde la plus heureuse, avec ce petit Émile Blondet. Pas une infidélité, pas une pensée détournée. Oh, ils sont aujourd'hui comme au premier jour, mais nous avons toujours été dérangés, interrompus au moment des plus intéressants. Ces longs attachements, comme celui de Rastignac, de Mme de Russingen, de Maxime de Caen, votre cousine, pour son Octave, ont un secret, et ce secret, nous l'ignorons, ma chère. Le monde nous fait l'extrême honneur de nous prendre pour des roués dignes de la cour du roi et régent, mais nous sommes toutes innocentes, comme deux petites pensionnaires. Je serais encore heureuse de cette innocence-là, s'écria railleusement la princesse. Mais la nôtre est pire. Il y a de quoi être humiliée. Que voulez-vous ? Nous offrirons notre mortification à Dieu en expiation de nos recherches infructueuses. Car, ma chère, il n'est pas probable que nous trouvions dans l'arrière-saison la belle fleur qui nous a manqué pendant le printemps et l'été. La question n'est pas là, reprit la marquise après une pause pleine de méditations respectives. Nous sommes encore assez belles pour inspirer une passion, mais nous ne convaincrons jamais personne de notre innocence ni de notre vertu. Oh, si c'était un mensonge, il serait bientôt orné de commentaires servis avec des jolies préparations qui le rendent croyable et dévoré comme un fruit délicieux. Mais faire croire à une vérité, oh, les plus grands hommes y ont péri, ajouta la princesse, avec un de ces fins sourires que le pinceau de Léonard de Vinci a seul pu rendre. Mais les niais aiment bien parfois, reprit la marquise. Mais, fit observer la princesse, pour ceci, les niais eux-mêmes n'ont pas assez de crédulité. Vous avez raison, dit en riant la marquise, mais ce n'est ni un sot, ni même un homme de talent que nous devrions chercher. Pour résoudre un pareil problème, il nous faut un homme de génie. Le génie seul a la foi de l'enfance, la religion de l'amour, et se laisse volontiers brander les yeux. Si vous et moi, nous avons rencontré des hommes de génie, ils étaient peut-être trop loin de nous, trop occupés, et nous, trop frivoles, trop entraînés, trop prises. Ah! Je voudrais cependant bien ne pas quitter ce monde sans avoir connu les plaisirs du véritable amour, s'écria la princesse. Mais ce n'est rien que de l'inspirer, dit madame d'Espard. Il s'agit de l'éprouver. Oh, je vois beaucoup de femmes n'être que des prétextes d'une passion au lieu d'en être à la fois la cause et l'effet. La dernière passion que j'ai inspirée était une sainte et belle chose, dit la princesse. Elle avait de l'avenir. Le hasard m'avait adressé cette fois cet homme de génie qui nous est dû et qu'il est si difficile de prendre. Car il y a plus de jolies femmes que de gens de génie, mais le diable s'est mêlé de l'aventure. Oh, mais contez-moi donc cela, ma chère. C'est tout neuf pour moi. Or, je ne me suis aperçu de cette belle passion qu'au milieu de l'hiver de 1829. Tous les vendredis, à l'opéra, je voyais à l'orchestre un jeune homme d'environ 30 ans, venu là pour moi, toujours à la même salle, me regardant avec les yeux de feu, mais souvent attristé par la distance qu'il trouvait entre nous, peut-être aussi par l'impossibilité de réussir. Oh, garçon, quand on aime, on devient bien bête, dit la marquise. Il se coulait pendant chaque entracte dans le corridor, reprit la princesse, en souriant de l'amicale épigramme par laquelle la marquise l'interrompait. Puis, une ou deux fois, pour me voir ou pour se faire voir, il mettait le nez à la vitre d'une loge en face de la mienne. Si je recevais une visite, je l'apercevais collé à une porte. Il pouvait alors me jeter un coup d'œil furtif. Il avait fini par connaître les personnes de ma société. Il les suivait quand elles se dirigeaient vers ma loge afin d'avoir les bénéfices de l'ouverture de ma porte. Le pauvre garçon a sans doute bientôt su qui j'étais, car il connaissait de vue monsieur de Maufrigneuse et mon beau-père. Alors je trouvais dès lors mon inconnu mystérieux aux Italiens, à une salle d'où il en admirait en face dans une extase naïve. C'en était joli. À la sortie de l'opéra, comme à celle des bouffons, je le voyais planté dans la foule immobile sur ses deux jambes. On le coudoyait, on ne l'ébranlait pas. Ses yeux devenaient moins brillants quand il m'apercevait appuyé sur le bras de quelque favori. D'ailleurs, pas un mot, pas une lettre, pas une démonstration. Avouez que c'était du bon goût. Quelquefois, en rentrant à mon hôtel au matin, je retrouvais mon homme assis sur une des bornes de ma porte cochère. Cet amoureux avait de bien beaux yeux, une barbe épaisse et longue en éventail, une royale, une moustache, et des favoris. On ne voyait que des pommettes blanches et un beau front. Enfin, une véritable tête antique. Le prince a, comme vous le savez, défendu les Tuileries du côté des quais dans la journée de juillet. Il est revenu le soir à Saint-Cloud quand tout a été perdu. Ma chère, m'a-t-il dit, oh, j'ai failli être tué sur les 4 heures. J'étais visé par un des insurgés lorsqu'un jeune homme à longue barbe, que je crois avoir vu d'ailleurs aux Italiens, et qui conduisait l'attaque, a détourné le canon du fusil. Le coup a frappé je ne sais quel homme, un maréchal des logis du régiment, qui était à 2 pas de mon mari. Ce jeune homme devait donc être un républicain. Et en 1831, quand je suis redevenu me loger ici, je l'ai rencontré, le dos appuyé au mur de cette maison. Il paraissait joyeux de mes désastres, qui peut-être lui semblaient nous rapprocher. Mais depuis les affaires de Saint-Merry, je ne l'ai plus revu. Il y a péri. La veille des funérailles du général Lamarque, je suis sorti à pied avec mon fils et mon républicain nous a suivis, tantôt derrière, tantôt devant nous, depuis la Madeleine jusqu'au passage des Panoramas, où j'allais. Voilà tout, dit la marquise. Tout, répondit la princesse. Ah, le matin de la prise de Saint-Merry, un gamin a voulu me parler à moi-même et m'a remis une lettre écrite sur du papier commun signé du nom de l'inconnu. Montrez-la moi, dit la marquise. Non, ma chère, cet amour a été trop grand et trop saint dans ce cœur d'homme pour que je viole son secret. Cette lettre, courte et terrible, me remue encore le cœur quand j'y songe. Cet homme mort me cause plus d'émotions que tous les vivants que j'ai distingués. Il revient dans ma pensée. Son nom? Demanda la marquise. Oh, un nom bien vulgaire. Michel Chrétien. Mais vous avez bien fait de me le dire, reprit vivement Madame d'Espard. J'ai souvent entendu parler de lui. Ce Michel Chrétien était l'ami d'un homme célèbre que vous avez déjà voulu voir, de Daniel d'Arthez, qui vient une ou deux fois par hiver chez moi. Oui, ce Chrétien, qui est effectivement mort à Saint-Merry, ne manquait pas d'amis. Oh, j'ai entendu dire qu'il était un de ces grands politiques auxquels, comme à de Marsay, il ne manque que le mouvement de ballon de la circonstance pour redevenir tout d'un coup ce qu'ils doivent être. Il vaut mieux alors qu'il soit mort, dit la princesse d'un air mélancolique sous lequel cacha sa pensée. Mais voulez-vous trouver un soir avec d'Arthez chez moi? Demanda la marquise. Vous causerez de votre revenant. Et volontiers, ma chère. Quelques jours après cette conversation, Blondet et Rastignac, qui connaissaient d'Arthez, promirent à Madame d'Espard de le déterminer à venir dîner chez elle. Cette promesse eût été certes imprudente, sans le nom de la princesse, dont la rencontre ne pouvait être indifférente à ce grand écrivain. Daniel d'Arthez est un des hommes rares qui, de nos jours, unissent un beau caractère, un beau talent, avait obtenu déjà, par toute la popularité que devaient lui mériter ses œuvres, mais une estime respectueuse à laquelle les âmes choisies ne pouvaient rien ajouter. Sa réputation grandira certes encore, mais elle a atteint alors tout son développement aux yeux des connaisseurs. Il est de ces auteurs qui, tôt ou tard, sont mis à leur vraie place et qui n'en changent plus. Gentilhomme pauvre, il avait compris son époque en demandant tout à une illustration personnelle. Il avait lutté pendant longtemps dans l'arène parisienne contre le gré d'un monde riche qui, par une contradiction que la vanité se charge de justifier, après l'avoir laissé en proie à la plus rigoureuse misère, avait légué à l'homme célèbre la fortune impitoyablement refusée à l'écrivain connu. Ce changement subi ne changea point les mœurs de Daniel d'Arthez. Il continua ses travaux avec une simplicité digne des temps antiques et s'en imposa de nouveau en acceptant un siège à la Chambre des députés où il prit place au côté droit. Depuis son avènement à la gloire, il était allé quelquefois dans le monde. Un de ses vieux amis, un grand médecin, Horace Bianchon, lui avait fait faire la connaissance du baron de Rastignac, sous-secrétaire d'État à un ministère et ami de Lamarsay. Ces deux hommes politiques s'étaient assez noblement prêtés à ce que Daniel, Horace et quelques intimes de Michel Chrétien retirassent le corps de ces républicains à l'église Saint-Merry et puissent lui rendre les honneurs funèbres. La reconnaissance pour un service qui contrastait avec les rigueurs administratives déployées à cette époque où les passions politiques se déchaînèrent si violemment, avait lié, pour ainsi dire, d'Arthez à Rastignac. Le sous-secrétaire d'État et l'illustre ministre étaient trop habiles pour ne pas profiter de cette circonstance. Aussi gagnèrent-ils quelques amis de Michel Chrétien, qui ne partageaient pas d'ailleurs ses opinions et qui se rattachèrent alors au nouveau gouvernement. L'un d'eux, Léon Giraud, nommé d'abord maître des requêtes, devint depuis conseiller d'État. L'existence de Daniel d'Arthez est entièrement consacrée au travail. Il ne voit la société que par échappée. Elle est pour lui comme un rêve. Sa maison est un couvent où il mène la vie d'un bénédictin. Même sobriété dans le régime, même régularité dans les occupations. Ses amis savent que jusqu'à présent, la femme n'a été pour lui qu'un accident toujours redouté. Il l'a trop observée pour ne pas la craindre. Mais à force de l'étudier, il a fini par ne plus la connaître. Semblable en ceci à ces profonds tacticiens qui seraient toujours battus sur des terrains imprévus où sont modifiés et contrariés leurs axiomes scientifiques. Il est resté l'enfant le plus candide en se montrant l'observateur le plus instruit. Ce contraste, en apparence impossible, est très explicable pour ceux qui ont pu mesurer la profondeur qui sépare les facultés des sentiments. Les âmes procèdent de la tête et les autres du cœur. On peut être un grand homme et un méchant, comme on peut être un sot et un amant sublime. D'Arthez est d'un de ces êtres privilégiés chez lesquels la finesse de l'esprit, l'étendue des qualités du cerveau, n'exclut ni la force ni la grandeur des sentiments. Il est, par un rare privilège, homme d'action et homme de pensée tout à la fois. Sa vie privée est noble et pure. S'il avait fui soigneusement l'amour jusqu'alors, il se connaissait bien. Il savait par avance quel serait l'empire d'une passion sur lui. Pendant longtemps, les travaux écrasants par lesquels il prépara le terrain solide de ses glorieux ouvrages et le froid de la misère furent un merveilleux préservatif. Quand vint l'aisance, il eut la plus vulgaire et la plus incompréhensible liaison avec une femme assez belle, mais qui appartenait à la classe inférieure, sans aucune instruction, sans manière et soigneusement cachée à tous les regards. Michel Chrétien accordait aux hommes de génie le pouvoir de transformer les plus massives créatures en sylphides. Les sottes en femmes d'esprit, les paysannes en marquises. Plus une femme était accomplie, plus elle perdait à leurs yeux. Car, selon lui, leur imagination n'avait rien à y faire. Selon lui, l'amour, simple besoin des sens pour les êtres inférieurs, était pour les êtres supérieurs la création morale la plus immense et la plus attachante. Pour justifier d'Arthez, il s'appuyait de l'exemple de Raphaël et de la Fornarina. Il aurait pu offrir lui-même comme un modèle en ce genre, lui qui voyait un ange dans la duchesse de Maufrigneuse. La bizarre fantaisie de d'Arthez pouvait d'ailleurs être justifiée de bien des manières. Peut-être avait-il tout d'abord désespéré de rencontrer ici-bas une femme qui répondit à la délicieuse chimère que tout homme d'esprit rêve et caresse. Peut-être avait-il un cœur trop chatouilleux, trop délicat pour le livrer à une femme du monde. Peut-être aimait-il mieux faire part à la nature et garder ses illusions en cultivant son idéal. Peut-être avait-il écarté l'amour comme incompatible avec ses travaux, avec la régularité d'une vie monacale où la passion eût tout dérangé. Depuis quelques mois, d'Arthez était l'objet des railleries de Blondet et de Rastignac, qui lui reprochaient de ne connaître ni le monde ni les femmes. À les entendre, ses œuvres étaient assez nombreuses et assez avancées pour qu'il se permît des distractions. Il avait une belle fortune et vivait comme un étudiant. Il ne jouissait de rien, ni de son or, ni de sa gloire. Il ignorait les exquises jouissances de la passion noble et délicate que certaines femmes bien nées et bien élevées inspiraient ou ressentaient. N'était-ce pas indigne de lui de n'avoir connu que les grossièretés de l'amour? L'amour réduit à ce que faisait la nature était à leurs yeux la plus seule chose du monde. L'une des gloires de la société, c'est d'avoir créé la femme là où la nature a fait une femelle, d'avoir créé la perpétuité du désir là où la nature n'a pensé qu'à la perpétuité de l'espèce, d'avoir enfin inventé l'amour, la plus belle religion du monde. D'Arthez ne savait rien des charmantes délicatesses de langage, rien des preuves d'affection incessamment données par l'âme et l'esprit, rien de ces désirs ennoblis par les manières, rien de ces formes angéliques prêtées aux choses les plus grossières, par les femmes comme il faut. Il connaissait peut-être la femme, mais il ignorait la divinité. Il fallait prodigieusement d'art, beaucoup de belles toilettes d'âme et de corps chez une femme pour bien aimer. Enfin, en vantant les délicieuses dépravations de pensée qui constituent la coquetterie parisienne, ces deux corrupteurs plaignaient d'Arthez, qui vivait d'un aliment sain et sans aucun assaisonnement, de n'avoir pas goûté les délices de la haute cuisine parisienne et stimulait vivement sa curiosité. Le docteur Bianchon, à qui d'Arthez faisait ses confidences, savait que cette curiosité s'était enfin éveillée. La longue liaison de ce grand écrivain avec une femme vulgaire, loin de lui plaire par l'habitude, lui était devenu insupportable, mais il était retenu par l'excessive timidité qui s'empare de tous les hommes solitaires. « Mais comment, disait Rastignac, quand on porte tranché de gueule et d'or à un bason et un tourneau de l'autre, ne fait-on pas briller ce vieil écu picard sur une voiture? Mais vous avez 30 000 livres de rente et les produits de votre plume. » Vous avez justifié votre devise qui forme le calembour tant recherché par nos ancêtres. Ars, thesaurus, quae virtus, et vous ne le prenez pas au bois de Boulogne, mais nous sommes dans un siècle où la vertu doit se montrer. Si vous lisez vos œuvres à cette espèce de grosse la forêt qui fait vos délices, je vous pardonnerai de la garder, dit Blondet. « Mais mon cher, si vous êtes au pain, sec, matériellement parlant, sous le rabord de l'esprit, Vous n'avez même pas de pain.